alors?
Miaou, 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 miaou.
Le bar à...
Miaou.
Le bar à quoi?
Le bar à chat.
Le talk chat de Radio Saint-Afrique.
C'est tout à fait chat.
Miaou.
Le bar à chat.
Nouvelle émission féline de Radio Saint-Afrique.
Tcha tcha tcha.
Ça le t'invente. Le bar à chat. L'émission chat, heureuse
de Radio Saint-Afrique.
Chatounette, chatounet, bienvenue dans notre émission de juillet, car oui, nous les chattes, on bosse, même l'été.
Ouais, hein. Et puis il fait chaud. Hein.
Voilà, il fait chaud, avec nos poils, on a super chaud. Mais on est quand même là pour vous tenir compagnie pendant tout l'été, en juillet et en août. On s'est retroussé les manches, on n'a même pas peur. Et puis, on a tellement de choses à dire en général que
c'est clair.
On ne peut pas s'arrêter pendant deux mois, c'est pas possible. Donc, bienvenue, nous sommes... En groupe un petit peu restreint aujourd'hui.
En groupe d'été.
C'est ça, en groupe d'été, c'est ça. Il y en a qui sont partis vadrouiller, qui reviendront. Il va y avoir de la nouveauté.
Bonnes vacances, hein, Chamanta.
C'est ça, c'est ça. Très bien. Donc, nous allons commencer avec le traditionnel tour de table, comme d'habitude, qui du coup va être restreint.
Puisque, okay. Un tout petit voilà. Tour de table.
Donc, avec Mémeille.
Oui, bonjour.
Tu vas
bien? En pleine forme.
Avec là, cette chaleur.
Eh ben moi, je suis comme les plantes tropicales. J'allais dire, ça m'excite. Peut-être.
Chouette.
Ah, donc toi, ça va là, la.
Ouais, ça va.
La chaleur, ça te pose pas de soucis. Tu as bien de la chance.
Moi, donc... je suis une fleur du sud, moi.
Ah, c'est ça.
Du sud-sud, en plus.
De quoi vas-tu nous parler?
Je vais parler des ornements corporels. Mm-hmm. Pour faire un petit peu le pendant de ce que va nous dire Félix. Voilà.
Très bien. Ça va être très centré, en fait.
Ça va être très, très ciblé.
Au niveau du sujet. Bon, sachant que moi, j'anime, donc je n'ai rien préparé. Mais j'ai des petites...
T'as griffouillé des trucs, là,
on voit rapidement.
Même.
Mais je j'ai envie de réagir avec force à ce que vous avez.
Avec force. Tu vas pouvoir.
Et volonté.
Et donc, Félix.
Eh bien, oui.
Toi.
Bonjour tout le monde. Moi aussi, ça va. Je pensais que après avoir hurlé toute la soirée hier en concert, j'aurais plus de voix.
Oui,
mais ça va bien.
On peut remettre dans le contexte. Donc, c'est l'émission de juillet, mais qui est enregistrée en juin. Et il s'avère que nous sommes le 22 juin, c'est-à-dire le lendemain de la fête
on
de la musique.
On vous cache rien.
Voilà. Donc,
qui était une chouette fête de la musique.
C'était génial.
Si bien que si vous vous gelez au mois de juillet, l'introduction est complètement un fuck.
Oui, c'est vrai. On verra quel sera le temps. Mais là, actuellement, c'est vrai qu'on est plutôt en mode canicule. Et c'était une belle soirée.
Ouais,
j'espère que
très,
les gens
très bien,
ont pris
ouais.
du,
Moi, j'ai vu des chouettes
du plaisir
choses,
comme nous. Ouais. Et comme on est des bénévoles actifs, c'est vrai qu'on s'est donné. On a
grave,
donné,
je peux plus
trop donné.
Les bras aujourd'hui.
On a mal partout. Voilà, une réaction de
mais
d'un
j'ai
bulot,
goûté des cocktails que je ne connaissais pas qui sont
voilà,
fort bons,
exactement.
Merci.
Non mais tout s'est très bien passé, on était tous très contents, mais on est beaucoup à avoir mal au crâne aujourd'hui.
Ouais.
Donc une pensée hein, pour ceux qui nous écoutent, qui seraient dans le même état que nous, mais en juillet, parce qu'ils auront fait une teuf et que voilà, on pense à vous.
Et donc bah, moi je vais réouvrir une rubrique que nous avions déjà animée,
oui.
Qui s'appelait « Belles et jolies ». Avec un nouveau sujet qui ne vous laissera pas de marbre, je suis sûre.
Et alors du coup, le générique, il faut qu'on le fasse, comme d'hab.
Ah bah ouais.
Hein, maison, très bien. On saura tout à l'heure, il faut s'échauffer un petit peu la voix. Très bien, bon donc voilà. Grosso modo, si les auditeurs ont bien suivi, ça tourne autour de...
Bon, jusqu'à présent, c'est pas très compliqué, je pense que... Ça va, ça suit.
Ouais. Bon, on posera des questions, peut-être, à la
oui,
fin.
Tout à fait.
Interrogation orale.
Tout à fait.
On a notre matou en régie. C'est
oui,
lui qui
oui.
va répondre aux questions.
Mais c'est ça, ça me
notre
perturbe
cobaye.
Du coup, parce que, vu que j'ai une réaction de bulot et je ne comprends plus, je suis perdue. Et donc, du coup,
eh bien, c'est la Félix. Rubrique, les filles, belles et jolies. Alors, le titre de mon papier, je vous le livre parce que je suis quand même pas peu fière de mon titre. Je l'ai intitulé « Du foin à la paillette ». Vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Donc, c'est le retour de la rubrique « Belle et jolie », notre moment de bargeoterie sur les infos « Soins, mode et beauté ». Oui, bon, ça c'est parce que c'est à peu près dans cet état d'esprit que je fais les rubriques belles et jolies. Alors, si vous vous souvenez bien, je vous ai parlé il y a quelques mois des glitter pits. Est-ce que vous vous rappelez, les filles? C'est les fameuses petites décos qu'on se colle sous les aisselles rebelles qui revendiquent le droit d'être belle avec des poils.
Vous avez vu déjà?
Véritable mouvement féministe. Ah oui.
Ouais, mais...
T'en as vu?
Ah, moi j'en ai... Enfin non, sur Internet.
Ah.
Je connais personne d'aussi barjo.
Pas à Saint-Afrique, Yaya.
Je connais personne d'aussi barjo, non. Donc, mais attends, il y a mieux.
Les paillettes pour aisselles, c'est ça.
Ouais. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on va s'attaquer au vajazzling, ou l'art de décorer sa foufoune avec des paillettes. Mais si, je vous assure, ça existe. Et depuis fort longtemps, puisque... En fait, je ne vais pas vous en dire trop parce que vraiment, j'ai fait des recherches. Autant les glitter pits, il y avait un mouvement féministe à la base qui disait, qui défendait le droit à vivre avec ses poils, machin. Là, on passe dans un truc qui est complètement opposé. C'est vraiment quelque chose de lié à la mode et ça date des années 2010. Et ça vient tout droit en provenance des
États-Unis.
Des États-Unis, bravo. Alors, le vajazzling viendrait d'une contraction du vajayjay. Alors, moi, je ne parle pas l'argot états-unien, qui voudrait dire donc le vagin en argot états-unien.
Ah, en argot vajayjay, ok.
Et de bedazzling, qui est éblouissant. Donc, il s'agit bien d'une foufoune qui brille, quoi. Donc, il s'agit là, du coup, de foufoune totalement imberbe, sur lesquelles on va coller des paillettes, histoire de bien montrer à sa ou à ses partenaires que c'est là que ça se passe. Des fois que...
Ça clignote.
Peut-être que pour Noël, ils vont en sortir qui clignotent, ma foi. Je sais pas où tu te mettras la batterie, mais on verra.
Mets un petit panneau solaire sur les pieds.
Alors, il y a de vraies œuvres d'art quand même, il faut le dire. Il y a de jolis papillons, des arcs-en-ciel, en veux-tu, en voilà, des cœurs, des numéros de téléphone. Enfin, en même temps, si tu mets ton numéro de téléphone au même endroit, c'est que tu as vraiment peur que le mec, il reste pas ou qu'il revienne pas. Bon, ça te regarde. Alors, en fait, ce système-là, c'est tout simple. Hein, on colle des paillettes, donc tu restes pendant des heures sous le nez de ton esthéticienne qui patiemment va te coller des paillettes.
C'est le nez de l'esthéticienne qui est...
J'imagine qu'elle doit mettre un masque, tu vois, un truc comme ça. Et donc, ça tient 3-4 jours. Et donc, en fait, ça veut dire qu'il vaut mieux être drôlement blindé pour s'offrir de telles décos obsolètes en si peu de temps. Mais personne ne m'a dit comment ça se passait au moment du petit rapprochement. Donc, je ne doute pas que pour certaines, ce choix soit un véritable choix qui s'étaye sur quelque chose de personnel et d'intime, comme pour celles qui choisissent de garder leur foin, par exemple. Du coup, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Alors, je me suis posé la question de la déco corporelle, pourquoi faire? À quoi ça sert? Alors, vu mon pédigré, il m'était plus facile de passer la porte d'un tatoueur que de me résoudre à pénétrer dans le temple de l'esthétique, lieu de perdition du poil. Mais ça viendra peut-être. Donc, j'ai été poser mes questions à Jeff, Matou tatoueur, qui a gentiment éclairé ma lanterne. On écoute.
Alors, le tatouage est vraiment un art. C'est le seul art qu'on puisse, encore de nos jours, exprimer nos pures envies et tout ce qui nous est vraiment personnel. C'est le dernier rempart qui nous appartient encore.
C'est un cheminement personnel, tu veux dire?
Tout à fait. C'est exprimer une chose que tu ne peux pas dire, une période de ta vie que tu as envie de marquer. Voilà. Un vrai tatouage, c'est souvent une période de ta vie ou quelque chose que tu as vécu qui fait que tu as envie de le marquer sur toi pour t'en souvenir. Certaines personnes sont des personnes introverties de base. Mais le jour où ils ont fait leur premier tatouage, ceux qui n'ont pas confiance en eux, ils ont passé un cap. Et tu retrouves des gens qui étaient super stressés, tu sais, qui ne parlaient pas aux autres, et qui à la fin, c'est l'inverse. Ils parlent à tout le monde, sont super heureux, ils sentent bien dans leur peau. Et ça, c'est l'effet tatouage.
Mais qu'est-ce que tu penses, toi, de ces gens qui vont cracher sur sur le piercing, comme le tatouage, comme des choses qui sont définitives, alors que finalement, ce sont aussi des gens qui vont chez le coiffeur, qui sortent avec les cheveux de toutes les couleurs ou qui se maquillent
Critiquer le tatou comme tout art, c'est complètement con. Il y a des gens qui vont aimer cet art, d'autres qui vont pas l'aimer. Un tatouage, c'est quelque chose de définitif, mais tu racontes quelque chose. Une couleur de cheveux, voilà, tu peux t'amuser... Tu la changes, tu la refais, tous les 15 jours tu changes de couleur, c'est pas un souci. Maintenant, il faut bien comprendre que le tatouage n'est pas un effet de mode, quoi. Tu fais pas ça comme tu changes ta couleur de cheveux. C'est quelque chose à étudier pour pas pouvoir le regretter plus tard. Ouais, c'est-à-dire que le tatouage n'est pas une mode, mais un art de vivre, ce qui est totalement différent.
Alors le tatouage, ça fait un peu mal, hein, donc ça fait mal pendant,
ouais.
et on est content après. Est-ce que pour toi, c'est comme la chirurgie esthétique ?
Non, c'est pas comme la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique, c'est changer définitivement ton corps. Par exemple, on va dire une poitrine, tu en rajoutes ou tu en enlèves. Mm-hmm. Un tatouage, tu vas jouer avec ce que tu as déjà pour faire ressortir tes formes. Mais tu ne vas pas en mettre en plus. Le problème, c'est qu'un tatouage est addictif. La chirurgie esthétique est addictive aussi, mm-hmm. mais pas pour les mêmes raisons. Un tatouage, il n'y a pas d'histoire de mal-être dans la peau. Par contre, pour une chirurgie esthétique, oui. Si tu passes par la chirurgie esthétique, c'est qu'il y a un très gros mal-être. C'est que tu as un problème avec ton corps. Alors qu'en tatouage, non, tu agrémentes ton corps. Donc tu aimes ton corps et tu l'agrémentes d'un art par-dessus. Chirurgie esthétique, c'est changer son corps. C'est pas pareil.
Tout à l'heure, tu disais que il y a des gens qui venaient se faire tatouer, qui prenaient confiance en eux.
Qui prennent confiance en eux, ouais. Ça, oui. Pour le fait d'avoir osé rentrer, d'avoir fait un tatouage... qui pour eux est quelque chose d'impensable. C'est donner une confiance parce qu'ils ont passé un cap. Moi, tous mes clients, en 26 ans, dire, j'ai vu des gens qui osaient même pas me dire bonjour quand ils rentraient, et la deuxième fois qu'ils venaient, c'est t'avais l'impression que ça faisait 20 ans qu'on se connaissait, quoi. Mais totalement changé. Des gens introvertis qui osaient même pas te dire bonjour, ils reviennent. Tiens, ça va. Ouais, la forme bien. Et tu rigoles, quoi. Je trouve ça excellent, moi, en fait. C'est vraiment...
Donc ça crée du lien.
Énorme. Mais tu sais, moi, j'ai des clients de 26 ans, je les ai toujours, hein. C'est une amitié qui se crée avec un tatouage. Voilà.
Alors d'après ton expérience, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui regrettent avec le temps ?
Oui, il y en a énormément du fait qu'ils n'ont pas réfléchi quand ils ont fait leur tatouage et qu'ils sont tombés sur un tatoueur qui s'en foutait un petit peu aussi, quoi. Un tatouage doit toujours être personnel. Un tatouage doit aller avec tes convictions et ta vie. Prendre un modèle que tu as sur un book, c'est-à-dire que tous les tatoueurs dans le monde entier ont les mêmes. Il n'y a rien de personnel. Un tatouage doit être personnel.
D'accord, donc si on veut un dessin tribal classique, c'est pas chez toi.
Moi, c'est refusé. C'est refusé parce que c'est le premier tatouage que tu voudras faire enlever en vieillissant. Parce que ce qui va à 20 ans avec le corps ne va plus à 40 ni à 60. Le corps change. Mm-hmm. Donc quand tu fais un tatouage qui est historique pour toi, 20 ans ou 40 ans plus tard, tu sais pourquoi tu le portes. Mais quand tu l'as fait juste pour un côté visuel et esthétique, comme je te disais, sur 20 ans, l'esthétique change beaucoup. Donc ce qui a été joli à une époque va être ridicule à la seconde. Un tatouage que tu vas garder à vie et tu regretteras jamais, c'est celui qui va raconter une période de ta vie. Tu peux pas effacer ta vie. Tu fais avec. Ouais. Marquer quelque chose qui a été négatif pour toi et le transformer en positif, ne serait-ce que ça, c'est quelque chose de marqué sur toi, mais c'est une période de ta vie, tu peux pas la regretter. Maintenant, quand tu fais un tatouage qui est juste symbole que tu as trouvé sur le net, il t'appartient pas, il a aucune valeur. Et donc c'est juste un coup de sang mais qui va vite tourner, donc t'en auras plus envie. Et tu fais comment dans ces cas-là ?
Et oui, tu fais comment dans ces cas-là ? Mais pour que la magie fonctionne, il faut aussi de la confiance.
Avec mes clients, tu sais, mine de rien, c'est je te grave la peau à des endroits super sensibles ou à des endroits très, très particuliers.
Ben oui, justement.
Donc voilà, tu vois, donc c'est une confiance. Et puis ça se transforme en amitié sur les années.
D'accord, bah justement, j'en arrive à te demander si se tatouer les parties intimes, c'est courant.
Oui, bien sûr.
Très, très intime.
Très, très intime, évidemment. Ouais. C'est un petit côté où, dans les couples, tu peux te faire plaisir.
Ouais.
Ouais, bien sûr, avec un petit côté rigolo.
Faut une sacrée motivation, parce que ça doit faire vachement mal, quand même.
Ah, il y en a qui aiment. Toute sensation, c'est comme pareil, hein. C'est comme partout, quoi. Il y en a qui aiment la douleur.
D'accord.
Donc, ils vont insister un peu plus. Et puis, d'autres, c'est comme tout, hein, tu sais, quand tu veux, tu peux. Hein. Donc, même si c'est sensible, le fait que ça soit un jeu sexuel avec ton partenaire, que tu te fasses un tatouage, a un petit côté particulier qui est très sympathique.
Voilà, se faire tatouer les parties intimes, c'est particulièrement lié au sexe, à la sexualité, au jeu.
Oui, de tout. C'est que tu as envie d'exprimer un désir ou ou à un fait avec ta compagne ou avec ton compagnon, voilà, de marquer. Voilà. Tu ne balades pas avec la quéquette à l'air toute la journée pour dire « t'as vu, je suis tatoué ».
Ni la foufoune, d'ailleurs.
Ni la foufoune, hein. Non, non, mais oui, c'est toujours, ça a toujours été un petit côté attrait jeu sexuel.
Bien des douleurs supportées parfois avec délices pour aborder le jardin d'autres délices. Et ben finalement, comment passe-t-on à l'action ?
D'après toi, combien de temps les gens réfléchissent avant de passer le pas ?
Alors moi, j'ai des clients qui ont attendu quelques années avant de trouver le bon tatoueur. Et de toute façon, c'est toujours bien de réfléchir.
C'est une histoire de personne, tu penses ?
Alors, t'as le coup de tête, mais en sachant que le coup de tête, c'est toujours pareil, il faut qu'un tatouage soit réfléchi. Sinon, tu le regrettes.
D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, un tatouage, c'est à vie. Donc, il faut réfléchir. Ça raconte ton histoire. Et après, en plus, il faut que le feeling passe avec le
avec
tatoueur.
Avec ton tatoueur, de toute façon. Tu peux tomber sur le meilleur tatoueur et ne avoir aucun feeling et refuser de te faire tatouer par lui. Ouais. Évidemment. T'as le côté artistique. On veut des belles pièces, on met le prix. Et t'as le côté, je veux le tatoueur le moins cher. Mais ça n'existe pas. Donc que les gens arrêtent de croire que le tatouage c'est bon marché, ça ne l'est pas. Mais un bon tatouage, lui, par contre, va rester à vie, donc il faut y mettre le prix, quoi. Quand il faut recouvrir un tatouage à 50 euros, bah là, ça en coûte 200 ou 300 pour pouvoir le faire recouvrir.
Ouais.
Alors tu l'aurais fait d'origine, la bonne pièce, travaillée par le bon tatoueur, t'en aurais pour moitié prix, mais au moins t'avais une belle pièce.
Tu veux rajouter quelque chose ? Non ?
Surtout réfléchissez bien avant de faire tatouer. Toujours. Mais vraiment, d'accord, c'est super important. Je passe ma vie à recouvrir les pièces des autres. Donc j'aimerais bien que les gens réfléchissent que c'est vraiment définitif. Et que c'est, donc c'est pas un coup de sang, c'est vraiment quelque chose de très réfléchi. Voilà.
Mais je te remercie beaucoup.
Avec grand plaisir.
Et voilà, bah maintenant nous connaissons le secret de quelques tatouages intimes. Par contre, j'ai été encore un petit peu timide parce que c'était la première fois que je le rencontrais. Puis il a des tatouages assez impressionnants. Mais après, une fois qu'on a passé, le cap, ça va, c'est quelqu'un de chaleureux. Mais donc, Matou, Jeff, si tu nous écoutes, j'ai oublié de te poser une question. Tu pourrais appeler à la radio pour m'expliquer si pour tatouer les parties intimes des garçons, il faut qu'ils soient en érection et comment tu t'y prends quand ça dure plusieurs heures. Voilà.
Effectivement, ouais.
Je me suis posé la question en rentrant. Je me suis dit, ah zut, j'ai oublié de lui demander. Voilà.
Et alors, t'as pris rendez-vous, ça y est ?
Et non, parce que du coup, je vais suivre son conseil et réfléchir longuement à ce que j'aurais envie de faire éventuellement.
Mais toi, tu es déjà tatouée.
Oui, mais bon, c'est... Par contre, c'est vrai, j'ai retrouvé dans ce qu'il disait le cheminement que j'avais fait moi par rapport à ce tatouage que j'ai fait il y a quelques années et de comment je le vis aujourd'hui, bien que ça soit derrière moi, ces moments-là. Et j'ai trouvé que sa façon de voir les choses... assez intéressant. Mmh. Après, c'est une façon de voir les choses. Hein. C'est pas... Voilà.
Et les autres chattes, vous avez des tatous, vous ? Mais, je suis pas curieuse, mais...
Tu sais qu'il y a une nouvelle chatte.
Oui. Oui. Alors, je posais la question et après, j'allais introduire.
Non, moi, je suis pas tatouée.
Donc, il y en a deux sur les quatre. Okay. Mmh. Ouais, moi non plus, j'ai rien. Je suis trop... Je suis très douillette. J'ai la flip, donc...
Ah. Moi, ça m'est même pas venu à l'idée de me faire tatouer.
Non, puis c'est ça. En fait, c'est pas se faire tatouer comme on va changer de coiffure. C'est à un moment, ça correspond à quelque chose.
Oui, c'est ce qu'il dit, en fait.
Ou pas.
Forcément.
Ouais, peut-être qu'il faut pas non plus trop...
Intellectualiser.
Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi de me poser la question de, tu vois, cette espèce de sexisme qu'il y a, enfin, de sexisme ou de fascisme ou de tout ce que tu veux, enfin, un truc en isme, qui dit, ou bullisme, c'est des réflexions de bulot.
Ouais.
Du style des gens qui ont des réflexions très désobligeantes sur ceux qui se tatouent, sur ceux qui ont un code vestimentaire un peu particulier, un peu marqué, sur la liberté que tu prends à des âges très différents avec ton image, ou même que tu oses te montrer un soir à une fête de la musique un peu bourrée.
De quoi tu veux parler.
Tu vois, alors que tout le monde va chez le coiffeur, le monde a eu un jour une couleur bizarre, puis t'as plein de nanas qui se maquillent, on dirait des voitures volées, et que ma foi, ça fait partie aussi du costume et ça fait partie aussi du choix.
Oui.
Et je vois pas pourquoi on aurait des échelles de valeur.
Non, effectivement.
Voilà.
Donc, qui sommes-nous pour juger ?
Qui sommes-nous pour juger ?
Bon, très bien. Alors, chers amis auditeurs, après ce reportage fort intéressant, vous avez peut-être entendu qu'il y a une petite voix supplémentaire qui s'est glissée dans le studio à nos côtés. Elle est là, elle est arrivée. On est toutes super excitées. Il y a une nouvelle chatte à
nos côtés.
Elle
est arrivée en retard.
Et bon, elle arrive en retard, mais c'est pas grave. Elle est là.
Quand même.
C'est ça le but. Voilà, nous accueillons chaleureusement MC Stit. Bienvenue,
bienvenue
à toi.
Merci. Alors,
moi, j'aimerais bien que tu nous racontes pourquoi t'es arrivé en retard, parce que ça, c'est succulent.
Ah oui. On veut l'histoire, ouais.
Ouh, c'est génial. Alors du coup, que tout le monde soit au courant, je n'ai plus de permis, donc du coup, je vais beaucoup moins vite et je roule à scooter, et donc c'est merveilleux entre Camarès et Saint-Afrique. Et donc, j'allais gaiement sur la route, cheveux au vent, enfin non, dans le casque, mais ça marche quand même. Jusqu'à ce que je vois une petite forme sur le bord de la route. Il s'est avéré, le temps que mon cerveau analyse l'image, que c'était un petit bébé oiseau, et je me suis dit que c'était pas digne des pigeons que je sauve d'habitude de le laisser en plein milieu de la route. Exact. Donc du coup, j'ai fait demi-tour. J'ai voulu sauver la bestiole. D'ailleurs, c'était dégueulasse. Il était plein de puces. On n'avait pas. Bref. Du coup, je lui ai filé de l'eau. J'ai essayé de le mettre sur le bord de la route, mais après, j'ai dû le surveiller parce qu'il voulait retourner à son point pour mourir, je pense.
Ah.
Donc, ça m'a pris un temps certain de doute où les gens ne comprenaient pas ce que je foutais sur le bord de la route comme ça avec une tête bizarre entre Camarès et Saint-Afrique.
Alors moi, ce que j'adore, c'est que quand je l'écoute raconter l'histoire, parce que c'est la deuxième fois que je l'entends quand même l'histoire, avec le débit que t'as, en fait, j'ai l'impression de regarder un film, un dessin animé de Walt Disney en accéléré.
Voilà, je fais cet effet aux gens.
Non, mais non. On ne pourra pas t'en vouloir d'avoir voulu ta Dr. Queen des oisillons.
Ouais.
Franchement, j'aurais fait pareil.
Merci.
J'espère qu'il va bien. Elle va repasser en rentrant. T'es allé comme une vieille crêpe.
C'est possible. D'autant qu'il y en avait un qui était déjà étalé juste à côté de lui.
Bon. C'est pour ça qu'il voulait retourner là où était son frangin, quoi. Ah là là.
Mon Dieu. Moi, je ne me ferais pas tatouer un oiseau mort, rassurez-vous.
Très bien, donc MC Stit, c'est ta première aujourd'hui. Nous dire de quoi tu vas nous parler dans cette émission. Et ensuite, on rattrapera Mémey qui va poursuivre sur les ornements corporels.
Alors moi aujourd'hui, je vais vous parler de sexisme dans le milieu scientifique. Mmh. Et surtout dans le milieu archéologique, parce que j'y ai passé quelques années.
Ouais.
Et donc voilà.
Bon, je pense que ça ne va pas manquer de nous faire réagir.
Ah non, ça c'est clair.
Super, bon bah on a hâte. Et du coup, en attendant, Mémey, prends le micro.
Je m'éclaircis la voix, excusez-moi.
Alors,
parce que j'ai l'impression. Voilà. J'ai un chat dans la gorge, c'est normal.
Excusez-moi. Petite erreur de.
Oui, je sais pas là, tout d'un coup on se retrouve avec.
C'est quand Mémey arrive, il y a la musique d'X-Files.
Mordeur et Scully là.
Mais ça elle est bien, ça le faisait pas mal.
Allez, c'est parti.
Bon, eh bien on y va. Nous venons d'entendre Félix Potin sur la déco, entre autres, des foufounes. Eh bien, en matière d'ornement corporel, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Figurez-vous qu'on a découvert en Afrique, dans un site archéologique daté de moins 70 000 ans, des coquillages percés qui devaient être montés, ça y est mon char vient, sous forme de collier. Plus près de nous, il y a moins 35 000 ou 30 000 ans, dans la grotte des Fées, en Allier, on a retrouvé la trace des premiers fabricants de pendeloques faites de dents percées, considérées comme l'œuvre, même pas de Homo sapiens, nous, mais des derniers néandertaliens. Pour mon propos sur les ornements corporels, je vais vous parler des Matisses, peuple qui vit en Amazonie et qui est assez représentatif de l'utilisation du corps comme vitrine sociale. Les Matisses perçoivent leur ornement corporel comme de véritables constituants de la personne, des parties du corps comparables aux poils. Indice, mais aussi vecteur de maturité, ils sont censés conférer de l'énergie à leur porteur et sont transmis de manière graduelle tout au long de l'existence. Pour les Amérindiens d'Amazonie, la naissance biologique ne saurait à elle seule assurer la reproduction sociale. Pour eux, produire un être pleinement humain exige un véritable travail de parachèvement du corps. Parce que, loin de mettre l'accent sur la filiation, la transmission, l'hérédité, comme nous, les théories amérindiennes font la part belle aux circonstances et à la malléabilité.
On est ici d'autant moins omnubilé par la question des origines et la recherche en paternité que celle-ci est généralement postulée comme multiple et collective. En bref, on se fout de savoir qui est le père biologique et c'est pas lui qui va venir vous emmerder avec ses « c'est pas comme ça que je t'ai élevé, je ne te reconnais pas, je vais te renier », etc. etc. Donc, labré, vous savez, hein, quand on se met des anneaux sur les lèvres, pendants d'oreilles, coiffes de plumes, peintures et incisions corporelles sont autant de blasons qui définissent la personne qui la constitue. Ça n'a rien de superficiel et de futile. Mais est-ce jamais le cas ? Les parures sont, au contraire, la condition sine qua non de l'accès au pouvoir et les ornements comme sa manifestation concrète. Les Matisse affirment que leurs voisins maroubos les craignent à cause de leurs ornements. Dans le Haut Xingu, la manière dont les oreilles des jeunes gens sont percées leur ouvre ou non l'accès à certains rôles clés, tandis qu'un leader Kashinawa n'obtient de véritable légitimité qu'à travers le port d'une coiffe faite des plumes d'aigle amassées en signe d'allégeance par l'ensemble de ses partisans. Dans le nord-ouest amazonien, la possession de certaines parures de plumes aurait même représenté un enjeu suffisant pour motiver des affrontements guerriers. Je continue. Écoutez bien les minettes. Rien d'étonnant dès lors à ce qu'en Amazonie, l'ornementation corporelle soit avant tout une préoccupation masculine. L'ornementation des hommes étant systématiquement beaucoup plus sophistiquée que celle des femmes. Lorsque les premiers miroirs ont été introduits chez les Matisse, ils ont été rapidement accaparés par les hommes. C'est pas beau ça ? Remettez-moi une couche. Dans la parure, s'élabore et se complexifie. Donc, la parure, oh là là. Donc,
il fait chaud.
Ouais. La parure s'élabore et se complexifie tout au long de la vie. La toute première perforation se fait au lobe de l'oreille, dès l'âge de 4-5 ans. Dans ce premier trou, on introduit d'abord un bâtonnet très fin, appelé paut. Progressivement, au fil des années, le diamètre de ce bout de bois augmente. Vers 8 ans, arrive le moment de percer la narine, afin d'y introduire des démuches. Aiguille végétale dont le nom va croissant jusqu'à recouvrir totalement l'aile du nez. Et on continue. Vers l'âge de 10 ans, c'est la cloison nasale qui est percée. Vient à l'approche de la puberté et des premiers rapports sexuels, le moment de percer la lèvre inférieure pour y introduire un gviot, fine baguette en bois. Les gviottes féminins reçoivent une attention à la mesure de l'érotisme qui s'en dégage, puisqu'il s'agit d'un ornement particulièrement sexy, volontiers utilisé dans des jeux de séduction. Suivent trois autres étapes qui vont du tatouage.
C'est joliment dit, je trouve.
Alors oui, donc, les trois autres étapes qui vont du tatouage à l'aide de pigments végétaux et de suie jusqu'aux perforations. Et alors, paradoxalement, la pousse des poils est considérée comme une suite aux ornementations réalisées rituellement. Et leurs conséquences. La piqûre, sous toutes ses formes que je viens d'évoquer, est une transmission d'énergie. C'est comme qui dirait de l'acupuncture portative. Mais l'énergie de la piqûre doit être canalisée, contrôlée. Elle doit impérativement être maîtrisée. Plus que de l'énergie abstraite, ce qu'on fait pénétrer avec l'ornement, c'est avant tout l'énergie de quelqu'un. C'est véritablement le rapport au monde qu'expriment les ornements Matisse. La santé sociale de chacun se lie au travers de son ornementation. Les orphelins ont très peu de colliers et se font percer plus tardivement. Les captifs peuvent n'avoir que des tatouages. Les survivants peuvent perdre les ornements conjointement à leur famille. L'épanouissement de la personne physique n'est pensable que dans son contexte social. Et c'est ce qu'exprime la plus ou moins grande complexité des ornements. Je vais encore paraphraser Simone de Beauvoir. On ne naît pas Matisse, on le devient par l'ornement corporel.
Mmh.
On est de sacrées meneuses d'hommes dans notre régiment de cavalerie. Les cavaleuses, on nous surnomme les dragons ou les valkyries. Car nos yeux ne sont pas dans nos poches pendant le conseil de révision. Et s'il faut s'en taper des manches, on a nos petites compensations. Ainsi durant que la nouvelle classe se présentait à nous sans caleçon, on a toutes chaviré des chasses en voyant parader Gaston. La colonelle frôle le malaise devant son maître 93. La commandante, elle flash un max sur son 128 de thorax. La capitaine perd la bataille autour de son 80 de taille. Et la lieutenante son self-control en vérifiant son tour d'épaule. Que sa cuisse fit un bon 60, laisse la pudente pente lente. La sergente oublie toute conduite pour son biceps de 48. La caporale est expirante en annonçant mollet 40. Bref, toutes les filles avaient un choix pour l'un des appâts de Gaston. Même moi qui ne suis que simple soldate, moi je faillis bouffer ma cravate. En yeux tant, si je puis me permettre, c'est charmant, 25 cm. Alors les officières bien vite se saisirent de la nouvelle recrue et l'entraînèrent chez le garde-mythe pour un habillage de leur cru. Il fallait les voir, les bougresses, frétiller autour du mannequin, choisir les brosses, choisir la graisse, pour lui faire luire les brodequins, se transformer en essayeuse, derrière le comptoir du fourrier, et faire assaut de judicieuse, retouche au costume du guerrier. La caporale a une recette pour que ne plisse pas ses chaussettes. La sergente prône que son calcif doit être aussi court que ses tifs. L'adjudante, que Dieu la protège, enduit ses guêtres d'un blanc de neige. Un treillis qui dessine ses hanches exige la lieutenante qui flanche. Son ceinturon, la capitaine, lui ajuste ainsi qu'une gaine pour que la commandante voie ses fesses bien cambrées sous le battle dress. La colonelle dit quelle merveille ce petit calot sur son oreille. En somme, toutes les filles du quartier se prenaient pour Jean-Paul Gaultier. Même moi qui ne suis simple soldate, même moi mordillant ma cravate, ce qui me plaisait, si je puis me permettre, c'était ces 28 cm. Maître voix branlée du chef, en m'entendant avouer franchement, ce qui doit qu'étant assez bref, exalte ainsi mon sentiment. Et je devine alors la méprise et l'équivoque de mes propos. Il faut donc maintenant que je vous dise, pour ne point déshonorer le drapeau, que ce que je chante légère, c'est 30 centimètres, mettons. Sont ceux de la petite fourragère dansant à l'épaule de Gaston.
C'était frais.
Oui, ça faisait un peu du bien.
Vous avez reconnu Juliette?
Oui, ouais. C'est ça. Mais moi, ça m'évoque quelque chose quand tu parlais de ces ornements et surtout du fait que ce sont les hommes qui se sont accaparés ces ornements-là. Ça me fait penser à la nature, simplement, aux oiseaux, aux papillons, à différentes espèces. où le mâle est toujours extrêmement beau, flamboyant, celui qui a les plus belles parures, parades. Hein. Ouais. Les plus beaux chants, ouais. Alors que la femelle, elle est là comme une grosse moche dans son coin. Elle sert qu'à se reproduire et puis c'est tout. Et c'est curieux ce truc, tu vois. Que...
Oui. Alors la différence, c'est que là, ça, bon, à part les labrets et puis où il y a un peu de sexualité, ça n'a rien à voir avec justement la parade sexuelle. Tous les autres ornements, c'est le pouvoir.
Là, c'est vraiment, ouais, c'est ça.
C'est être...
Justement, est-ce que le pouvoir et le sexe, ça, c'est pas si intimement lié que ça?
Oui, si. Bah, c'est-à-dire que le pouvoir, j'imagine que, voilà, en voyant telle personne qui a tant de, je sais pas moi, tant de trous percés, donc tu évalues sa position hiérarchique, oui. Finalement, dans la société.
Oui.
Ce qui fait aussi que, forcément, si c'est quelqu'un de pouvoir... les femmes vont avoir tendance à voilà.
C'est pas sûr. Nous, en Occident, on a cette réaction, mais ouais. Pas sûr que les femmes Matisse ou les femmes d'ailleurs, elles aient cette réaction. Je sais pas. Je suis pas sûre.
Ouais.
Vraiment, je crois pas que ce soit qui est comment dire une interprétation concernant le sexe quoi. C'est vraiment indépendamment. Okay. Il me semble.
Là encore un sujet à creuser. Oui. On en a quelques-uns.
Là, moi, ça me faisait faire le parallèle avec, les animaux, justement.
Oui, c'est vrai. Mais là,
les mâles, voilà.
Quelle est la place de la sexualité chez les animaux et quelle est la place du pouvoir chez l'homme? Alors,
ouais.
Bon,
ouais.
Voilà.
Et vous avez 4 heures.
Mais bon, c'est vrai que c'est un peu comme ça aussi chez nous, hein, de ce qu'on disait là.
Oui.
Le fait de paraître, son costume, sa façon de s'habiller, on affirme quelque chose, on affiche quelque chose. Mm-hmm.
Oui, et même, alors moi du coup, j'embraye encore, j'enfonce encore le clou du parallèle entre le pouvoir et le sexe, hein, parce qu'un homme politique n'est jamais autant sexiste,
C'était un lapsus.
Oui, c'était un lapsus.
Pas.
Mais en même temps, pas si lapsus que ça. N'est jamais autant désiré sexuellement.
Sexy.
Voilà, sexy, merci, que quand il est élu. Je veux dire, franchement, enfin...
Mais c'est aussi vrai pour les femmes. Les femmes qui ont du pouvoir, elles attirent les hommes.
Putain, Merkel, faut avoir envie, quoi.
Oui. Ah voilà.
Marine Le Pen aussi, ceci dit.
Ouais.
Ça marche pas pour tout le monde, je crois.
Peut-être que ça marche pas pour tout le monde, mais...
Ouais, il y en a, ouais, quand ils sont... Oui. Je pense à... Ouais,
ouais non, n'y pense pas, ça va te faire mal à la tête.
C'est trop tard, j'ai déjà mal. Très bien, bien. Merci Mémé pour ce papier aussi qui amène aussi plein de questionnements. On s'ennuie jamais entre nous les chats.
Non,
super. C'est maintenant au tour de MC Steed.
Hello.
D'embrayer avec son premier sujet.
T'encourages. Tu te fais mal regarder parce que tu portes un voile. On affirme que...
Forcément, tu l'as pas choisi.
T'es stigmatisé parce que t'es pute. On affirme que...
Forcément, tu l'as pas choisi.
On te demande tout le temps de quel pays tu viens.
On te touche tout le temps les cheveux parce qu'ils sont crépus.
Tu restes assise en soirée.
T'as peur des emmerdes.
T'es traumatisée alors tu sors rarement de chez toi.
On te force à regarder ton échographie avant un avortement.
Tu prends la pilule du lendemain plusieurs fois.
Tu mets des capotes internes.
T'oublies la capote.
Les règles t'insupportent.
T'aimerais bien en avoir.
Tu veux pas d'enfant.
Tu veux pas être en couple.
T'as des gosses.
T'en voudrais bien.
Tu préfères les chats.
T'es amoureuse de plusieurs personnes.
Tu n'aimes personne.
Tu aimes être en couple exclusif.
T'aimes pas la séduction.
T'aimes pas qu'on soit tactile avec toi.
T'aimes prendre les devants.
Tu parles trop fort. Tu prends trop de place.
T'es trop discrète.
T'es dépressive ou on te traite d'hystérique.
On t'enferme.
On t'empoisonne.
Tu écartes les jambes dans les transports publics.
Personne ne réagit quand tu te fais agresser.
Tu t'es faite violer.
Tu as peur de te faire violer.
Tu t'es fait casser la gueule.
Tu t'es faite harceler, frapper tous les jours, humilier.
On t'a dit que tu l'avais cherché.
T'as voulu porter plainte.
T'as pas voulu porter plainte.
Les juges et les flics se sont foutus de ta gueule.
Personne t'a soutenu.
T'oses pas en parler. On t'a pas cru.
On te reproche de t'en sortir.
On te reproche de pas t'en sortir.
T'as honte.
T'essayes
de marcher la tête haute.
T'y arrives pas toujours.
Tu fais du topless.
Tu portes un burkini. On t'interdit les plages pour ça. Tu te fais expliquer par un gars un truc qu'en fait tu connais mieux que lui.
fais insulter parce que t'as pas répondu à un bonjour.
Bonjour. On te conseille de moins manger.
Ou de plus manger.
Si t'es pas d'accord, on te force.
On te dit que tu devrais te maquiller.
Que tu es trop maquillée.
On se fout de ta gueule quand t'approches un moteur de voiture alors que tu gères la mécanique mieux que n'importe quel cum.
Que n'importe quel cum.
On te demande de dégager d'un lieu parce que tu es avec ta petite copine.
T'aimes pas le sexe.
T'aimes trop le sexe.
Tu t'en fous.
Tu fais du sexe tarifé.
On se dit que t'as pas de sexualité parce que t'es en situation de handicap.
À la poste, à la banque, à la CAF.
On te suspecte de ne pas être toi. On te réassigne à tes parties génitales.
On t'oblige à être une fille ou un garçon et à obéir à des conventions sociales binaires et excluantes.
On se fout de ta gueule quand tu expliques ton expression de genre et que ça correspond pas à ce que la personne pense et croit voir.
On te dit que tu devrais t'épiler, tu aimes t'épiler, tu sais pas si tu as envie de t'épiler. On te demande si t'es un garçon ou une fille.
Un garçon ou une fille? On te dit que...
Tu serais plus belle si tu portais des habits plus féminins.
On te dit que...
Ce serait plus normal.
On te déconseille...
De rentrer toute seule après minuit.
La nuit et le jour. Tu existes comme toi tu le veux.
La nuit et le jour. Tu existes comme toi tu veux.
Salut.
C'était bien.
Ouais. C'était bien. Oui. Ça vous a plu? Ouais.
Carrément.
C'était quoi? C'était qui?
Oui.
C'est un montage qui a été fait à la marche non mixte du 16 novembre 2016. Je n'ai pas de conneries, à Toulouse.
D'accord.
C'est voilà. Super.
Par le collectif Automédia étudiant.
Ok.
Voilà. Donc je remercie Bastien s'il écoute ça, de m'avoir envoyé. Ouais. Et donc après cette intro fort à propos, je vais vous parler de sexisme et d'histoire. Donc, par histoire, j'entends bien l'histoire avec un grand H, quoi, le truc bien. Irrévocable dans l'imaginaire général et tatoué de la mention scientifique que l'on ne saurait remettre en cause. Mais ça, non. Non, non. Donc, au fait, où je veux en venir, hein. Donc, je vais vous parler d'un sujet un peu pointu, mais rigolo. Vous allez voir. Donc, il s'agit des bourdes d'interprétation sexiste en archéologie et plus largement du sexisme dans ce milieu que j'ai écumé pendant quelques années. Donc les constats que j'ai pu y faire peuvent d'ailleurs sûrement s'appliquer à d'autres domaines de l'enseignement supérieur parce que c'est prouvé scientifiquement, il y a des cons partout. Voilà. Donc par bourde, j'entends des conclusions parfois hâtives où on a placé les femmes là où ça arrangeait tout le monde, donc dans le placard à balai,
dans
la cabane avec les mioches, à la place du mort. Hein. Donc en gros, ça fait 40 000 ans que Madame Sapiens Sapiens s'ennuie ferme et compte les heures derrière ses pots en terre cuite et sous le plafond de verre de l'histoire. Voilà. On commence en 1928, quand les époux Pécard, accusés plus tard d'être collabos, hein, bon, ça arrive, mettent à jour la sépulture préhistorique A de Teviec dans le Morbihan, datant du 6e millénaire avant Jésus-Christ. Donc, contenant les restes de deux individus, les conclusions sont hâtives et certes limitées par les techniques de l'époque. Il s'agit, à coup sûr, d'une femme et d'un homme. On voit bien, là, regarde, elle, eh ben, elle a plus de colliers, et eh ben lui, il en a moins. Voilà, idée du couple complémentaire, c'est plié, grille de lecture genrée sur une société passée qui nous échappe, notamment par l'absence d'écriture. Sauf que des recherches récentes ont démontré qu'il s'agissait en réalité de deux femmes. Surprise ! Pourtant, les résultats ont été largement diffusés à l'époque, valorisant les concepts opposés de féminité et de masculinité guerrière. L'histoire se répète, nous sommes en Bourgogne, à Vix, en 1953. La découverte d'une sépulture celte du 6e avant Jésus-Christ laisse le monde scientifique totalement confus. Comprenez, la personne enterrée est une femme, et ça c'est un problème. Elle est pourtant entourée d'objets somptueux qu'on pensait uniquement réservés aux guerriers méritants. Hein. Elle n'a rien fait pour mériter ça, c'est vrai. Hein. Donc, tollé et débat agitent le monde scientifique, ça ne peut être, et ben si, et ben si. Donc, notamment, elle était placée sur un char typique des tombes masculines, et c'est pour ça que tout le monde s'est un petit peu posé des questions et qu'ils n'ont pas tout de suite trop accepté que ce soit une dame. Donc, voilà, nouvelle bourde rigolote. Récente, celle-ci, au Centre européen de recherche de Bibracte, site bourguignon de la culture celte. Donc, son musée accueille notamment les résultats des équipes de recherche de Bourgogne et de Franche-Comté, spécialisées dans ce domaine. Donc, flânant entre les vitrines, quelle ne fut pas ma joie de tomber sur l'écriteau. En l'absence de données, on imagine que la femme consacrait son quotidien aux activités domestiques. Imparable. Aucun argument à opposer. Ce musée a accueilli plus de 800 000 visiteurs en 20 ans, ainsi que la communauté scientifique internationale pour sa vision moderne, sans aucun doute. Donc voilà, on pourrait penser que la situation a aujourd'hui évolué. Niet. Non, non. Malgré la présence importante de filles dans les amphis, le sexisme est toujours au top chez les archéologues. Donc, en témoigne le site Simonae et son article « T'assois pas là, tu vas rubéfier la couche, espèce de chaudière ». Je précise que rubéfier signifie chauffer, hein, pour ceux qui ne savent pas au courant. Voilà, tout est dit. Donc, sur ce blog, une étudiante raconte notamment avoir voulu travailler sur la place des armes dans les sépultures féminines. Réponse de son directeur. « Tu sais, les études de genre, c'est un truc de féministe. Fais attention, tu vas te faire embrigader. Faut pas chercher à parler des femmes en archéologie, c'est pas pertinent. L'univers des femmes, c'est celui de la maison, pas celui de la guerre et du pouvoir. Ah » Tout est dit en 2017. Voilà. Donc, ce site regroupe tout un tas d'autres réflexions cocasses qu'ont pu recevoir des étudiantes, ou même vraiment des archéologues professionnels. Hein. Donc, on a le classique « Ah, pour des filles, elles se débrouillent pas mal avec une pioche. » On rigole bien. On a aussi le directeur de chantier qui ne veut pas de filles trop agréables à regarder pour ne pas tenter les hommes. Il y a aussi celui pour qui les études de genre en archéologie sont un domaine de pseudo-recherche pour des historiennes sans qualification. Et aussi le « si tu trouves une monnaie, est-ce que tu payes tes seins ?» Bah, tu rigoles pas ? Bah, t'as pas d'humour, faut pas s'étonner si personne veut coucher avec toi. Et j'en passe, et des meilleurs. On ne compte pas le nombre de témoignages d'agressions sexuelles, concours de records de baisse de nouvelles recrues, et autres joyeusetés en chantier. Donc, j'ai moi-même pu...
Non.
Non, ça nous fait réfléchir.
J'ai une bulotride, c'est pour ça.
Bien. Donc, j'ai moi-même pu observer tout un tas de trucs super désopilants hein, quand j'étais là-bas. Donc, notamment les responsables de secteurs de fouilles qui choisissent leurs équipes selon le taux de bonassitude des nanas. En regardant leur profil Facebook, leurs photos, voilà,
la
c'est super.
Bonassitude.
Et oui, très important. Les réflexions sur les fringues, comme « t'as vu celle-là, ils sont mini-shorts ». Celle-là, on l'entend souvent. Le responsable qui enlève son alliance pour pouvoir choper les premières années. Véridique. Le mec qui rentre dans les chambres des meufs la nuit pour prendre des photos d'elles.
Hein ?
Oui. Et de manière globale, les blagues lourdes, ou si tu rigoles pas, bah c'est que t'as vraiment pas d'humour, ma pauvre. Donc, autant dire que faute d'humour, j'ai eu du répondant. Donc, c'est dans ce jeu-là, c'est à celui qui sera le plus couillu, fille comprise, pour la plupart tenter de rentrer dans le jeu viriliste pour avoir la paix. Et puis, bah, en gros, si tu couches pas, bah, franchement, t'as vraiment pas l'esprit d'équipe. Et puis, si tu
pas
couches,
corporate.
T'es plus ou moins la reine des morues de la plaine Saint-Denis. Voilà. Bon, j'ai heureusement aussi eu la chance de travailler avec des personnes fantastiques, mais aujourd'hui, j'ai décidé de parler des gros cons. Donc, je ferai pas de parenthèse pour les gens chouettes. Voilà. Donc, en gros, on parle d'une histoire gérée et écrite par des hommes qui servira de socle culturel solide pour les générations à venir qui auront le loisir de perpétuer nos conneries. Mais bon, parler de féminisme aux archéologues, c'est un peu comme parler environnement avec Donald Trump. Quoi. Voilà. Et donc, dernier petit exemple rajouté à la dernière minute, à Pompéi cette fois. Donc vous connaissez l'histoire, suite à l'éruption du Vésuve en 79, les victimes ont été figées dans la cendre et ainsi des moulages de plâtre nous ont permis de reconstituer les corps des malheureux. Donc parmi ceux-là, il y a le célèbre couple dit des amants de Pompéi, tous deux étant morts enlacés lors de la catastrophe, figés ensemble devant l'éternel. C'est superbe. Romantique. Donc ce moulage est vite devenu une figure du romantisme, hein, hétérosexuel évidemment. Hein, voilà. Et là, nouvelle surprise, des analyses ADN ont montré cette année qu'il s'agissait en fait de deux jeunes hommes âgés de 18 et 20 ans, non issus de la même famille. Du coup, on les appelle maintenant les amants gays de Pompéi. Donc... Amour ou pas entre ces personnes, le retournement de situation est plutôt chouette. Coucou la manif pour tous. Mais pour ma part, je me dis que si je me prenais une éruption volcanique en pleine tronche, j'aurais sans doute envie de faire un dernier câlin à quelqu'un, que ce soit un pote, le boulanger ou Jean-Michel de la Conta, histoire de ne pas agoniser toute seule sous des tonnes de cendres. Bref.
Jean-Mi, on te fait coucou. Hein.
Salut. Bref, les interprétations que l'on tire de toutes ces découvertes tissent l'histoire, vous savez, l'histoire, celle à laquelle on fait appel quand on est à court d'arguments et qu'on balance le fameux « mais arrête de râler, on n'y peut rien, ça a toujours été comme ça, et maintenant fais-moi un sandwich ». Ou encore le « de tout temps, l'homme ». Alors celui-là, on peut tout dire. Ouais. Bref, c'est pour ça que c'est important de ne pas trop dire de bêtises quand on prétend raconter le passé de l'humanité, parce qu'en histoire, et plus largement dans le milieu scientifique, les facteurs humains et les schémas de pensée contemporains se croisent allègrement pour des résultats pas très très objectifs. Donc, soyez sûrs que sous les feux, la vérité est masquée. Regardez le bouquin d'histoire de vos mômes du coin de l'œil et suspicieux l'œil si vous voulez. Et non, les hommes préhistoriques ne traînaient pas les femmes par les cheveux avec une massue à la main. Merci. Donc, j'enchaîne sur un son de meuf, du hip-hop plutôt chouette, pour pas se laisser abattre, par Anna Tijou et Shadia Mansour, qui s'appelle Somos Sour. Tu nos dices que devemos sentarnos.
Pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarnos para decir ya vas, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escuchar. Cielo, vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados.
Ouais, moi j'ai trouvé ça vraiment super ton papier, drôle, pertinent, sympa comme tout. Et moi j'ai un petit appel à faire à tous ces archéologues hommes que tu décris dans ton papier. Messieurs, c'est pas parce que vous étudiez les dinosaures qu'il faut vous comporter comme tels.
C'est voilà. Pas les dinosaures.
Les dinosaures ou autres bestiaux très anciennes ou autre chose très ancienne, peu importe.
Parce que là c'était de l'archéo sur...
Néandertalien ou...
Peu importe, tu vois, c'était l'esprit. C'était histoire de dire que voilà, on a évolué depuis. Et il serait grand temps qu'il se réveille.
Après, on ne sait pas, peut-être que les dinosaures étaient gentlemen ou... Ouais. Sait-on jamais ?
Oui, en plus, mais bon.
Oui, parce que enfin, l'histoire, c'est vrai. Là, je suis en train de lire un polar. Mais un polar qui parle de l'Irlande, et de l'Irlande avant la chrétienté, où les femmes avaient beaucoup de pouvoir.
Et, oui.
Et donc, ce n'est pas, c'est pas quelque chose de systématique.
Mm-hmm. Ah oui, oui, non, mais complètement. C'est juste qu'on le dit que c'est systématique, oui. Et du coup, ça le devient.
Et je disais tout à l'heure, il y a des métiers, il ne faut pas oublier aussi que des corporations professionnelles qui sont traditionnellement plus occupées par les femmes, Le sexisme, dans l'autre sens, il existe aussi et il est tout aussi violent. Genre, il y a des hommes qui se font harceler dans les milieux hospitaliers. Genre, tu vas chercher rubrique infirmière, par exemple. Enfin, voilà, je veux dire, c'est pas une histoire de genre, tu vois.
Ouais, c'est avéré parce que je n'ai
jamais
entendu parler. Ouais.
Moi, j'ai un copain qui est infirmier et pour qui ça se passe bien parce qu'il est homo. Donc ça va très bien pour lui, mais j'en connais d'autres qui ne le sont pas.
Parce qu'il est tellement cool, c'est notre copine.
Il est tellement voilà, c'est ça, tu vois, les stéréotypes, ça va dans tous les sens.
D'accord.
C'est assez impressionnant, quoi. Donc, le sexisme.
Allez, on a fait le tour. Donc, on va pouvoir conclure donc, cette émission de juillet donc, avec MC Stitt qui nous a rejoint. Merci beaucoup. Et on se retrouvera. Merci Clément, effectivement. Merci les filles. Merci mon petit cerveau de m'avoir amené jusque-là parce que je ne pensais pas que je pourrais tenir jusqu'au bout. Et tout ça pour vous dire que donc, vous pouvez nous retrouver en réécoute et en podcast sur le site internet. Voilà, que dire d'autre qu'on a hâte de vous retrouver pour le mois d'août avec plein d'autres beaux sujets. Et puis voilà, vous faites de gros miaou d'ici là.
Miaou, miaou.
Hydratez-vous, portez-vous bien.
Oui.
Et des gros bisous. Ciao.
Miaou. Ciao.
Miaou. Miaou. Oh, j'ai trouvé un homme.
Chalor.
Miaou. Miaou, 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 miaou.
Le barat.
Miaou.
Le bar à quoi ?
Le
bar à chat.
Le talk chat de Radio Saint-Afrique.
C'est tout à fait chat.
Miaou.
Le bar à chat.
Nouvelle émission féline de Radio Saint-Afrique.
Miaou. Miaou. Tcha
tcha tcha. Le bar à chat. L'émission chat heureuse
de Radio Saint-Afrique.
Miaou.